Nous lisons dans Matthieu 12, Matthieu 12, à partir du verset 22. Il est écrit ceci. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens l'ayant appris dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? » Voilà ce que le Seigneur nous donne comme exhortation. Il nous dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est une réalité spirituelle. Tout ce que dit le Seigneur est vrai. Le Seigneur nous prévient que nous pourrions être distraits par les disputes entre les gens de force des ténèbres. On peut voir des politiciens se disputer à la télé. On peut voir des sportifs se disputer à la télé. Mais le Seigneur nous dit, quand c'est des gens des ténèbres, il ne faut pas qu'on croie en tout cela. Ils sont unis. Ils sont unis lorsqu'il faut combattre Dieu. Ils sont unis. Lorsqu'il faut faire le mal, ils sont unis. Mais en apparence, ils peuvent faire montre d'un certain élan de division. Mais le Seigneur nous dit que c'est faux. Puisque un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Donc il ne faut pas qu'on se fasse prendre par le piège lorsqu'on voit un voyant ou bien un magicien guérir quelqu'un d'une maladie, d'un sortilège. On va se dire, mais tiens, le magicien a guéri la personne d'un sortilège. Donc, c'est la magie blanche. Donc, c'est positif. Ah non! Le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de division. Il y a une entente, malgré les apparences. Ces gens-là sont unis. Donc, quand quelqu'un qui est malade parce qu'un démon est en train de l'embêter, il va voir un magicien. Le magicien ne chasse pas le démon. En réalité, il y a entente entre le magicien et le démon pour qu'il se déplace, pour donner l'impression au client qui est là qu'il est guéri. C'est le client qui est dupé, mais ce n'est pas. Il n'y a pas de division au milieu des forces des ténèbres. Et combien de fois on voit avant les procès, dans les tribunaux, les avocats des deux parties prennent le café ensemble. Ils prennent le café ensemble, ils discutent et ils s'entendent sur la sentence finale. L'autre, l'un dit, moi je veux prendre telle ligne, toi tu vas prendre telle autre ligne. Finalement, nos clients vont nous payer. Mais nous savons, toi et moi, que ça va finir à telle sentence du juge. Mais quand ils sont maintenant devant tout le monde, en train de plaider, on a l'impression qu'ils ne s'aiment pas, ils s'attaquent. Mais en réalité, ce sont déjà entendus de la marche à suivre, sur la marche à suivre. C'est ce que Jésus nous livre comme secret là. Il nous dit que faites attention, les gens des ténèbres, ils ne sont pas divisés. Ils sont unis, parce que si un royaume est divisé, il ne peut pas subsister. Il ne peut pas survivre à lui-même, il ne peut pas avancer, c'est une réalité. Bien-aimé, faut jamais applaudir ou se réjouir quand on voit les gens de force des ténèbres se déchirer entre eux, en réalité, ce n'est qu'une apparence. Quand ça va devenir sérieux, ils vont se mettre ensemble. Quand ça va devenir pour l'intérêt de leur royaume, ils vont se mettre ensemble. Mais c'est vrai, c'est des humains comme nous qui peuvent parfois avoir des choses à combattre l'un contre l'autre. Mais quand il s'agit de l'intérêt global, les forces des ténèbres, ils vont se mettre ensemble. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Donc quand on les voit se disputer, on doit se dire, c'est entre eux, je ne m'en mêle pas. Parce que si tu commets l'erreur de t'en mêler et prendre parti pour l'un contre l'autre, c'est toi qui vas être humilié à la fin. Parce que à la fin, on va les voir s'entendre. On connaît les mêmes problèmes. Nous ne disons pas que forcément c'est des forces des ténèbres, mais on connaît les mêmes problèmes avec certains couples qui semblent tout le temps se déchirer. Mais dès que tu te mêles de leur affaire, c'est toi qui vas être dupé. Et parce que c'est des gens, oui, peut-être en apparence, ils se déchirent, mais en arrière-plan, ils s'entendent très bien pour faire le mal ou bien dans une complicité pour autre chose. Donc il faut faire attention. Au fait, nous devons rester dans la vérité. Nous ne devons jamais nous dire, mais tiens, ils se déchirent, donc je peux en profiter pour casser l'un devant l'autre. Non, on se fait piéger parce que ces gens-là, puisqu'ils sont mal intentionnés, parce qu'ils sont pas brisés, parce qu'ils sont charnels, ils vont finir par s'entendre pour des causes qui les unissent, pour des causes charnelles. Donc, il faut faire attention quand on veut se mêler de certaines affaires. Il ne faut pas se dire, mais tiens, ils se sont déchirés, maintenant je peux dire à l'autre la vérité. Non, la vérité, c'est la vérité. Que les gens soient unis ou pas, nous devons dire la vérité. Nous ne devons pas penser que, ah, mais puisqu'ils se déchirent, maintenant je peux dévoiler à l'un qui est l'autre. Mais c'est des gens qui peuvent se déchirer, mais s'ils sont charnels, ils vont avoir des points communs, qui sont des points communs mauvais, mais ils vont s'unir pour cela. Et toi qui es dans la vérité, tu vas rester pantois. Donc il faut faire très attention. Jésus nous le dit, le royaume, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, donc c'est impossible. Donc un guérisseur satanique ne peut pas vraiment guérir quelqu'un qui est attaqué par le diable. Un féticheur ne peut pas régler véritablement le problème. Qu'est-ce qui se passe? Il va travailler pour son royaume, le royaume du diable. Donc la personne qui vient avec le problème va être davantage possédée. Bon, au fait, quand tu étais venu, tu étais attaqué par une seule force. Maintenant, quand tu vas avoir une autre force satanique pour la délivrance, les deux forces vont se réunir pour te donner l'impression de libération. Là, tu es maintenant tributaire, tu es dépendant, pas d'une seule force, mais de deux forces. Donc ta délivrance finale va être plus difficile parce que tu es parti demander de l'aide à un autre membre des forces des ténèbres. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se diviser quand il s'agit de la cause commune. Donc quand toi, tu viens pour être délivré, il parle à l'autre, on fait comment? Bon, écoute, moi, je vais me déplacer, je vais aller à la jambe, je vais quitter la tête, je vais aller à la jambe. Comme ça, la personne va avoir l'impression d'être guérie. Toi, tu auras ton argent. Et puis la personne est dupée. Et à la fin, nous deux, nous contrôlons la personne. Et donc le cas de la personne devient plus difficile. Ce qui fait que toute sa vie, cette personne-là devra consulter le même féticheur. Aujourd'hui, c'est la tête. Demain, ça va être le bras. Ça va se calmer après consultation pendant 6 mois. Après, une autre maladie va prendre la jambe. Et ton esclavage devient plus dur qu'avant. Donc il ne faut pas se tromper. Le royaume de Satan n'est pas divisé, malgré les apparences. Même quand il y a des guerres, même quand il y a des guerres entre deux pays, les forces des ténèbres de deux pays sont unies. C'est la population qui est vendue à la guerre, qui est livrée à la guerre. Mais d'ailleurs, d'une manière concrète, on m'a expliqué que les mariages entre grands d'Europe, une famille de l'Allemagne qui épouse une famille de la France, une famille de l'Allemagne, qui épouse une famille d'Angleterre. C'était fait de sorte que quand il y a guerre, que ce soit l'Angleterre qui gagne, la famille garde ses biens. Que ce soit la France qui gagne, la famille garde ses biens. Parce qu'ils ont des membres de famille d'un côté et de l'autre. Donc, et dans tous les pays d'Europe, c'est les mêmes familles. Donc c'est fait exprès. Ils restent gagnants à la fin. Donc même si l'Allemagne triomphe de la France, cette famille-là a des représentants haut placés en Allemagne. Donc la famille française de cette famille-là allemande, elle garde ses biens, puisqu'ils ont des représentants de l'autre côté. Donc le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Que personne ne nous trompe. Ne nous réjouissons pas de voir des gens mauvais se disputer en se disant « Ah, ça y est, c'est bon, c'est faux ». On ne peut que se réjouir lorsque l'un d'entre eux revient à la vérité. Vient à Jésus clairement. Là, on dira « Merci Seigneur, on se réjouit ». Mais une division apparente, Jésus nous dit là que ce n'est pas une vraie division. En réalité, c'est Satan ne peut pas chasser Satan. Voilà, bien-aimés. Maintenant, le Seigneur nous montre que le royaume de Satan est uni. Mais le même Seigneur va dire dans Luc 16, il dit, mais les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de lumière. Alors que le royaume de Satan est uni, pourtant c'est des gens mauvais, hein, mais ils sont unis pour leur cause. C'est nous qui avons de bonnes motivations, qui avons des objectifs purs, des objectifs nets qui nous permettent de nous diviser. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais non, les enfants des ténèbres sont beaucoup plus sages que les enfants de lumière. Eux, ils ont de mauvais objectifs. Ils sont mauvais, mais ils savent, ils connaissent la vertu, la force de l'unité. Ils disent, ah, autant être unis. Si je veux gagner, même si je n'aime pas monsieur X, on a le même combat, autant être unis pour gagner le combat. Dans tous les cas, leur maître, Satan, veille à ce que ses objectifs à lui puissent être atteints, même si c'est une fausse unité, mais c'est quand même une unité, parce que ça leur permet d'atteindre leurs objectifs. Mais Jésus dit, ben voilà, les enfants de lumière, eux n'ont pas cette sagesse-là. Nous nous divisons pour tout et pour rien. Pour des bêtises, on se laisse diviser. Tout ça, parce qu'il y a l'égoïsme, il y a l'individualisme. Donc chacun regarde à son intérêt au lieu de regarder à l'intérêt de notre royaume. C'est important, bien-aimés, de rester unis si nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous parlons souvent de l'église des Actes des Apôtres. Tout le monde crie l'église des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, ils étaient puissants, puissants, puissants. Mais on va lire demain, mais cette église-là était unie. On dit que dans Actes des Apôtres 4, 32, 33, tous étaient une même âme, un même cœur. Nous croyons que la puissance est venue d'où? La puissance se manifestait comment? Seulement par des parlants en langue. Non! Par une unité parfaite. Si vraiment on est spirituel, on va travailler pour l'unité. Si on travaille pour la division, on n'est pas spirituel. Une fois, il y a les apôtres qui se promenaient avec le Seigneur, qui marchaient avec le Seigneur. Ils ont vu un homme chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, mais il n'est pas avec nous. On doit l'arrêter. Le Seigneur a dit, ah non, il fait le même travail que nous. Il amasse avec nous, donc il est dans notre camp. Laissez-le tranquille. Cette conscience-là doit revenir. Le Seigneur revient chercher son Église. Son Église doit être unie. Cette conscience-là de marcher ensemble dans l'unité doit revenir. C'est naturel, hein? On est humain. L'humain aime la division parce que la division lui permet de s'exprimer. La division lui permet de se mettre en évidence. de faire des camps, ça nous permet d'exister. Ce n'est pas bon. Parce que maintenant, nous devons exister en Christ. Nous sommes dans son corps. Nous devons exister en lui, pas seul, mais en lui. Et le corps du Christ, c'est tous les frères et sœurs. Nous devons considérer notre travail comme étant le travail de Christ. C'est ainsi que nous éviterons la division. C'est quand tu considères que ton travail, c'est à toi, c'est là que la division commence. Parce que tu vas chercher à te mettre en évidence par rapport à quelqu'un d'autre. Ensuite, tu considères que c'est le travail de Jésus. Tu travailles avec lui. Tu es un organe dans le corps du Christ. Nous devons faire attention à la division. La division nous freinera, nous empêchera d'avancer. C'est toujours dans les logiques de la division, mais heureusement pour nous, le Seigneur Dieu a utilisé ça en notre faveur, mais c'est ce qui a amené Judas à trahir Jésus. La division a toujours affaibli les justes. Toujours les justes ont péché par la division. Et les injustes ont été toujours vainqueurs par l'unité. Nous devons faire attention. C'est l'heure de se réveiller. Ça suffit de chercher à faire des choses seules. On doit travailler en équipe. Parce que Dieu nous a sauvés en équipe. Il nous a sauvés seuls. Et dès qu'il nous a sauvés, il nous a mis dans une équipe. Ce qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. Il nous a mis tout de suite dedans quand il nous a sauvés. Nous devons arrêter d'attaquer le frère, la sœur, parce que il fait partie du même corps que nous. S'il est malade, nous aussi, on va subir la maladie d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12. Quand un membre du corps est malade, tout le monde est malade, même si on ne le voit pas. Aujourd'hui, avec la technologie, nous le savons, puisque quand il y a une blessure qui est infectée à l'orteil, mais la fièvre touche tout le corps, puisqu'on peut mesurer la température du corps. On peut voir la multiplication des globules blancs par des tests. On a des appareils qui nous montrent qu'un corps, un membre qui est touché, rend malade tout le corps. Mais ça ne se voit pas lorsque les yeux continuent à regarder, alors que le foie est malade. Les yeux continuent à regarder, mais petit à petit, ça va se voir. Mais ça a commencé très tôt. N'attendons pas que ça devienne grave pour qu'on se réveille pour dire, mais non, revenons à l'unité. Acceptons le principe tel que le Seigneur nous le dit. Un royaume divisé ne peut pas fonctionner. Ne cherchons pas à subir ça pour comprendre. Le Seigneur le dit, cela suffit pour qu'on prenne des mesures. Les temps sont difficiles. Les gens de vérité doivent être ensemble, doivent être unis. Nous devons prier chaque jour pour que Dieu nous évite d'être un problème pour quelqu'un de vérité. Jésus a dit, si quelqu'un est un problème pour l'un de ses petits, ça sera grave pour lui. Jésus dit, attention, celui qui va être une occasion de chute pour l'un de ses petits aura affaire à moi. Mais l'un de ses petits, c'est qui? Ce sont les gens de vérité. Les gens qui aiment le Seigneur, qui sont attachés à lui. Et même si tu es chrétien, tu commences à leur faire des problèmes, tu auras affaire au Seigneur. Parce qu'il est dit, qui aime bien, châtie bien. Tu auras affaire à lui. Il ne faut pas toucher aux gens de vérité. Il faut aimer les gens de vérité. Il faut s'en occuper, puisque nous travaillons pour la même cause. Prions que Dieu nous aide à reconnaître les gens de vérité. Le christianisme d'aujourd'hui s'est spécialisé dans la reconnaissance des ennemis et des gens dangereux. On voit dans les églises des gens prier partout, « Seigneur, mes ennemis !» Il faut s'en occuper, il faut les écraser. On est devenu spécialiste de combattre des ennemis. Et quand c'est comme ça, ça va être dès que quelqu'un va dire quelque chose de contraire à ce que tu penses, ça va devenir un ennemi. Dès que quelqu'un va faire des choses différemment de toi, ça va devenir un ennemi. C'est devenu le système des ennemis. Est-ce que ça donne le bonheur? Mais curieusement, ça donne le goût à certains. Vous savez, il y en a quand ils se fâchent, ils se sentent bien. Mais ce n'est pas la voie normale. La voie normale, c'est quand on est joyeux qu'on doit bien se sentir. Aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes de trouver les ennemis. Celui-ci est mon ennemi. Celle-là, c'est mon ennemi. Mais il faut qu'on ait la capacité, plus encore, de reconnaître nos amis, de reconnaître les vrais frères. Vous savez, aux États-Unis, pour devenir policier, on te fait passer un test. On te met dans une sorte de labyrinthe et tu passes dans les couloirs. Et à chaque fois, on te fait sortir une sorte de planche de bois avec le dessin d'un humain. Il va être soit en tenue comme toi, c'est-à-dire c'est ton frère policier, soit un humain quelconque, bandit, avec une arme pour te faire du mal, soit un passant. Soit un humain simple qui ne te veut pas du mal. Eh bien, tu dois être capable de tirer à chaque fois sur les bandits et de ne pas tirer sur les policiers et de ne pas tirer sur les innocents. Donc, si tu réussis ce test, ça fait partie des tests déterminants pour que tu deviennes policier. Donc, nous devons être capables de reconnaître nos frères. Mais parce que si tu ne reconnais pas tes frères, tu vas tirer dessus. La planche vient, tu tires. Tout ce qui bouge, tu tires. En fait, tout ce qui se met en face de toi, tu tires. Mais comment tu vas avoir le diplôme? Tu ne peux pas avoir le diplôme parce que tu vas être un policier dangereux. Qui va mélanger et les innocents, et les bandits, et les autres policiers. Ce test-là est important. Savoir reconnaître les vrais frères, les vraies sœurs, reconnaître les justes. C'est important. Vous savez, Élie a dit, je suis resté tout seul, mais Dieu lui dit, mais non, il y a 7000 encore. Il y a 7000. On ne peut pas être le seul juste sur la terre. Donc, dès que quelqu'un s'oppose à nous, dès que quelqu'un dit le contraire, ça devient un ennemi. Ah non! Nous devons accepter la contradiction. Soyons vainqueurs par la parole et non en taxant l'autre d'ennemi ou d'antichrist. Le Seigneur savait reconnaître ses amis. Vous savez que Pierre a renié le Seigneur. Est-ce que le Seigneur l'a traité d'ennemi? Non. Il n'a pas traité d'ennemi. Au contraire, il a dit, je veux prier pour toi, Pierre. Quand toi, tu reviendras de l'épreuve, tu soutiendras tes frères et sœurs. Voilà. Alors qu'il savait que Pierre allait le renier. Mais il savait que c'est par faiblesse. C'était pas parce que Pierre le détestait, mais c'était par faiblesse, sous pression. Pierre l'a renié. Il savait que c'était quelqu'un à lui. Il faut qu'on imite le Seigneur. Savoir reconnaître les frères, les vrais et les sœurs. Pas juste reconnaître les ennemis. Nous ne sommes pas contre le don du discernement des esprits. Mais ce don du discernement doit nous donner la capacité aussi à reconnaître nos vrais amis, nos vrais frères et sœurs. Même si parfois ils peuvent nous résister, même si parfois ils peuvent s'opposer à nous. Mais on sait quand même que lui, il aime Jésus, il est prêt à mourir pour Jésus. C'est vrai qu'on s'oppose pour telle affaire, mais ça reste mon frère. Ça reste ma sœur, parce qu'on a les mêmes objectifs. Mais il peut y avoir une incompréhension due à la chair. Donc on doit comprendre ça, savoir, reconnaître ça, que non, ça c'est une incompréhension due à la chair. Ce n'est pas que nos objectifs sont différents. Il faut qu'on soit capable, comme le Seigneur, de savoir que Pierre, c'est quelqu'un à lui. Parce que quand il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, tu sais lire dans les cœurs, tu sais que je t'aime. Le Seigneur aussi s'est tu. Il savait que Pierre l'aimait. Il n'a pas dit, mais oui, mais tu m'as renié, non, mais je doute. Non. Il savait que malgré le fait que Pierre l'avait renié, Pierre l'aimait. Beaucoup même. Mais c'était la pression. Dieu nous doit nous donner, nous devons prier pour reconnaître les vrais frères, les vraies sœurs, les vrais amis, malgré les troubles qu'il peut y avoir au milieu de nous. Savoir discerner quand même. Non. Il a fait ça par la chair, mais fondamentalement, il tient au Seigneur. Je ne dis pas qu'on doit renoncer au don du discernement des esprits et renoncer au fait de reconnaître aussi les gens qui font les choses sciemment anti-Dieu. Je ne dis pas ça. Je dis de même qu'on est capable de voir ça, on doit être aussi capable de voir les vrais amis, les vrais frères et sœurs. Parce que si on confond ça, on va tirer sur eux et on va devenir ennemi de qui ? De Dieu. Or, vaut mieux être ennemi d'un homme. Si tu deviens ennemi de Dieu, qui va te protéger ? Ah oui, c'est dit dans la Bible. Hein? Si Dieu devient ton ennemi, qui va te protéger ? Autant, ça peut encore être supportable d'être ennemi d'un homme. Dieu va être l'arbitre. Mais si tu deviens ennemi de Dieu, qui va être l'arbitre ? Or, on devient ennemi de Dieu quand on tire sur les vrais frères et les vraies sœurs. On devient ennemi de Dieu. Qui a compris ça ? Paul, non ? Quand Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas, il lui dit, pourquoi tu me persécutes ? Mais Paul n'a jamais tiré sur Jésus, il n'a jamais tapé Jésus. Peut-être il n'a jamais même vu, physiquement. Mais en faisant du mal aux chrétiens, il faisait du mal à qui ? À Jésus. Il devenait ennemi du Seigneur. Là, nous ne sommes même pas en train de demander à chacun d'aller plus loin, d'aimer. On ne parle pas d'aimer ses ennemis. On est juste au niveau d'aimer ses frères, aimer ses sœurs, savoir les reconnaître. Et pour ceux qui ne le sont pas, les laisser entre les mains de Dieu, ne pas chercher à entrer dans la haine même contre les ennemis. Non. Mais restons dans le cadre frères et sœurs. Que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse reconnaître les vrais frères, les vraies sœurs. Et ainsi, s'il y a quelque chose de négatif qui peut venir d'eux, nous allons leur pardonner. Nous allons facilement excuser cela. Parce qu'on sait que c'est un frère, c'est une sœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Au fait, tel que toi, tu vois l'autre frère comme quelqu'un qui est en toi. Parce qu'un frère, c'est quelqu'un qui c'est comme si on est ensemble. On est dans la communion, et on est ensemble. Tu pardonnes parce que c'est comme si tu te pardonnais à toi-même. Mais Dieu aussi va te pardonner. L'unité que tu acceptes avec le frère et la sœur, cette unité te sera favorable avec Dieu. Imagine le nombre de fois Dieu t'a pardonné. Le nombre de fois. Il dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vais pas vous pardonner. Nous devons savoir gérer l'unité, accepter l'unité, refuser la division, vraiment strictement refuser la division. Tant que quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, nous devons l'aimer, nous devons lui pardonner, nous devons l'excuser. C'est très important, sinon nous n'allons pas avancer. Jésus nous donne la clé. Un royaume divisé ne peut pas avancer. Je vais relire encore. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça ne veut pas dire frère et sœurs, qu'on ne doit plus se dire la vérité. Au contraire, on va se dire la vérité, mais comme on veut construire, ça ne sera pas dit dans un mauvais élan, dans une mauvaise atmosphère. Puisqu'on veut construire, quand on dit la vérité, on veut aider, on veut être fort ensemble. On doit au contraire se dire la vérité, parce que se cacher souvent la vérité, ça fait qu'on garde des choses dans le cœur, ça nous détruit par rapport à l'autre. Mais quand on sait que la vérité va construire, on l'a dit. Même si l'autre peut mal prendre les choses, mais au moins, tout est pur, tout est propre. On peut construire ensemble. Nous devons favoriser la construction. La division est dangereuse. La division a détruit les plus grands empires. Mais le Seigneur Jésus nous dit, le royaume de Satan, lui, n'est pas divisé. Il est très bien organisé et uni parce qu'ils connaissent la difficulté de la division. Or, lui, il veut réussir ses coups. Et notre Dieu aussi veut réussir. Mais je vais vous donner l'exemple de l'homme selon le cœur de Dieu. David pouvait tuer Saül. Hein? C'est vrai, il ne l'a pas tué parce que c'était loin de l'Éternel. Mais il ne l'a pas tué aussi parce qu'on va voir plus tard, il pouvait aussi tuer les Avner, il pouvait tuer les gens de Saül quand Saül est mort. Mais il a refusé. David a dit, ce sont des frères. Est-ce que tu t'imagines les gens comme Avner, quand David avait... Vous vous souvenez de l'épisode où David avait pris l'épée et le casque de Saül et il a crié à distance, Avner, il a appelé Avner. Avner, c'était le chef, le général de Saül, le chef d'état-major. Il a dit, Avner, c'est comme ça que tu protèges ton maître. Il a crié Avner. Donc Avner faisait partie de l'équipe qui cherchait David pour le tuer, n'est-ce pas? Mais quand David a pris le pouvoir, Saül est mort, David a dit à tous ses généraux, on ne touche pas Avner. Avner va venir travailler avec vous comme général aussi. Ça a déplu à Joab. Joab a fait un complot et il a fait tuer Avner. Et quand David passait le pouvoir à Salomon, il a dit à Salomon, quand tu prendras le pouvoir, tu ne laisseras pas Joab mourir tranquillement. Il faut que tu le tues. Pourquoi? Parce qu'il a répandu le sang en temps de paix. Il a divisé le peuple de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait que même si Avner a voulu me tuer, mais il a voulu me tuer parce que c'était sous les ordres de Saül. Moi, je n'ai pas eu de problème avec Avner. Mais il était sous les ordres de Saül, c'est pourquoi il a voulu me tuer. Maintenant que je suis le roi de tout le monde, je suis aussi le roi d'Avner. Il va être général chez moi. Mais comme Joab était dans un autre esprit, il a fait tuer Avner. Mais David était dans l'esprit de Dieu. Il a dit pas question. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, je ne vais pas tuer Saül. Parce que si je tue Saül, les gens qui sont contre Israël vont se moquer de nous tous. On s'est tué entre nous. Il a dit non. Officiellement, il est le roi d'Israël. C'est mon honneur. Je ne tue pas la personne qui représente mon honneur. Mais cet homme-là, je ne sais pas comment... Vraiment, c'est Jésus avant le temps, quoi. C'est Jésus avant le temps. Il dit non, je ne tue pas Saül. Parce que les Philistins vont en prendre et vont se moquer de nous. Il aimait Israël plus qu'il aimait lui-même. Il s'aimait lui-même. C'était la fierté d'Israël, le peuple de Dieu. C'est ça que doit être un chrétien, la fierté de l'Église. Il doit viser la fierté de l'Église, le peuple de Dieu. Je ne veux pas faire une action qui va amener l'Église à la division. Je ne veux pas faire une action qui va freiner l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu d'abord. Ça, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, Avner va travailler avec moi. Et puisque Joab l'a tué, mais c'est Joab aussi va mourir. Alors qu'Avner, c'était son ennemi. Et Joab, c'était qui? Joab, c'était plus qu'un frère, plus qu'un ami pour David. Joab a toujours été avec David dès le départ. Il l'a aidé dans toutes ses souffrances. Mais puisque Joab était dans l'esprit de division du peuple de Dieu, David a dit qu'il doit mourir. Vous imaginez le niveau de pureté de David. Donc il est prêt. Il est contre son propre... Joab était plus qu'un frère pour David. Il était partout avec lui. C'était comme un second David. Mais il était contre le peuple de Dieu. Et à cause de ça, David a dit, doit mourir. Parce qu'il est contre le peuple de Dieu. Il est contre l'unité des enfants de Dieu. Il a préféré tuer Avner dans les temps de paix. Il est contre Dieu. David a considéré qu'il était contre Dieu. Quand tu es contre les enfants de Dieu, tu es contre Dieu lui-même. Et entre Dieu et Joab, David a choisi Dieu. Voilà. Parce que David aimait Joab terriblement. Mais qu'est-ce qu'il devait faire entre Dieu et Joab? Le choix était clair. Il a choisi Dieu. Il a dit, Joab doit payer pour ce qu'il a fait. Salomon, il faut que tu le surveilles. Quand David a pris le pouvoir, la guerre a continué un peu contre les gens de Saül. C'est David qui a stoppé la guerre. Il a dit, non, on ne doit pas se battre entre nous les frères. On arrête ça. Pas question de bagarre. C'est Israël. Nous sommes le même peuple. Bien-aimé, même quelqu'un d'une autre église, c'est notre frère. On est d'accord, il y a des fausses églises, mais on ne connaît pas chaque chrétien de cette église-là. Du moment qu'officiellement il est chrétien, c'est un frère, parce que Dieu ne nous a pas montré qui il est à 100%. Même s'il est dans une mauvaise église, ce n'est pas nous qui allons lui faire du mal. Si les forces du ténèbre, si d'autres personnes veulent faire du mal, ça, c'est leur problème. Nous, on ne va pas faire du mal à un frère. Officiellement, c'est un frère, on ne lui fait pas du mal. C'est la même équipe. C'est Dieu lui-même qui doit nous séparer. Ce n'est pas à nous de créer la séparation. Sauf dans les conditions, comme c'est écrit dans Tite 3.10, on doit s'éloigner de quelqu'un qui crée la division au milieu de nous. Tu l'avertis une fois, frère, ton attitude, sœur, ton attitude, ça crée la division. Deux fois tu l'avertis, la personne ne comprend pas, tu t'éloignes. Parce que l'église du Seigneur doit être unie. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour que cette église-là soit unie. Ne nous laissons pas voir. Ta chair te pousse à détester un frère ou une sœur. Bien sûr, quand ta chair te pousse comme ça, ta chair te donne des justifications. Ah oui, il exagère dans ceci, elle exagère dans cela. Non. Tu dis, si Dieu m'aime, moi qui suis imparfait, pourquoi je n'aimerais pas l'autre? Surtout que c'est un enfant de Dieu. La personne a quand même choisi Dieu. C'est important, ce choix-là. Pierre n'était pas parfait. Il a renié le Seigneur. Mais il restait un frère du Seigneur, même s'il a renié. Nous devons discerner les choses, bien-aimés. Distinguer qui est qui. Ne pas mettre tout le monde dans le même sens. Nous devons être sages. Ne pas laisser le Satan nous diviser facilement. Nous devons résister fortement à la division. Ça ne veut pas dire faire des compromis. Mais même si on se dit la vérité, faire en sorte que cette vérité-là produise l'unité finalement, en finalité. Le Seigneur revient bientôt, mais il va enlever une église unie, pas une église désunie, divisée. Nous devons veiller à cela, bien-aimés. Avec persévérance, l'apôtre Paul nous dit quoi dans 1 Corinthiens 6, il dit, pourquoi vous ne souffrez pas? Pourquoi tu ne souffres pas, mais tu vas jusque... Pourquoi tu n'acceptes pas de souffrir? Tu vas jusqu'à porter plainte à des frères et sœurs. Vous savez, nous venons de la Guyane, nous sommes meurtris, parce que là-bas, l'affaire entre un pasteur et d'autres pasteurs, c'est arrivé au tribunal, avec des avocats païens. C'est arrivé au tribunal. Parce que le pasteur veut camper sur ses positions, les autres aussi sur leurs positions. Eh bien, c'est le tribunal qui doit les trancher. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 6, pourquoi vous ne souffrez pas? Hein? Les injustices. Vous allez jusqu'à voir des païens pour régler vos problèmes. Acceptez l'injustice et souffrez comme votre Seigneur Jésus a accepté l'injustice, il a souffert. Joseph, quand ses frères sont venus devant lui en tremblant, il a dit non, stop. Dieu s'est servi de votre méchanceté pour nous sauver tous. Voilà. Bien-aimés, si nous voulons maintenir l'unité, nous devons rejeter tout ce qui peut produire la division. Voilà. Ce qu'on m'a fait dans le passé, ça peut produire la division. Donc, tout ce qui est dans le passé, de négatif qu'on nous a fait, sachons en retirer quelque chose de positif, comme Joseph. Il a dit, ce que vous m'avez fait, ça a contribué à nous sauver, nous tous. Il a pu retirer le négatif de son passé du négatif de son passé, il a retiré quelque chose de positif et de grand. Et tout le monde s'est calmé. Il a dit, maintenant, nous tous nous sommes sauvés. Surtout que nous, les chrétiens, nous avons le verset qui dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même ce qui est négatif, ça concourt pour notre bien. Sachons bien aimer pratiquer Tite 3.10. Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, tout celui qui crée la division. Ah oui, oui, c'est des versets qui sont donnés pour nous donner la victoire. Quelqu'un qui crée toujours la division, tu lui dis, mais non, mon frère, on est entre nous, on peut se pardonner. Mais il continue toujours à venir critiquer, deuxième fois, troisième fois, tu dis, ah non, frère, moi, je veux construire. Je ne veux pas diviser. Voilà. Moi, je suis pour le corps du Christ. Je suis pour les enfants de Dieu. Je ne suis pas pour ça. Troisièmement, nous devons, bien aimés, refuser l'égoïsme. L'égoïsme, c'est ça qui conduit à la division. On veut l'individualisme. Ah, mon ministère, mon parcours, Dieu m'a dit. Tout ce que Dieu va te dire doit correspondre à l'unité des enfants de Dieu, à la construction de son œuvre. Et les enfants de Dieu font partie de son œuvre. Ah oui, 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 moi aussi je suis... On a vu ça avec Marie et Aaron, mais Moïse n'est pas le seul prophète. Nous aussi, Dieu nous parle. Mais non, pourquoi? Bien-aimé, si Dieu t'utilise, qu'il t'utilise, mais que tu ne te compares pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi ils se sont comparés à Moïse? Ils sont prophètes, qu'ils exercent, c'est tout. Bien-aimé, nous n'avons pas à nous comparer. Parfois, certains subissent des trucs du genre, en couple ou bien dans la famille. Quand toi, tu parles, ta femme n'écoute pas. C'est quand le pasteur parle qu'elle écoute. Mais continue à prier pour que tu sois davantage spirituel et qu'on t'écoute. Tu n'as pas besoin de dire, il n'y a pas que le pasteur. Non, pourquoi? Il faut éviter ce genre de comparaison. Exerçons. Exerçons. Si on a un ministère, exerçons-le. On n'a pas besoin de se comparer à quelqu'un. Si les gens n'acceptent pas notre ministère, si ça vient de Dieu, continuons. Ça sera accepté. On a besoin de dire aux gens, pourquoi moi quand j'ai parlé, vous n'avez pas cru? C'est quand l'autre a parlé? Non. Continue. C'est quand peut-être la personne va échouer, tu dis, bon frère, je t'avais parlé, mais tu ne m'avais pas écouté. Voilà. Tu parles de toi. Je t'avais parlé, tu n'avais pas écouté. Mais pas comparé avec quelqu'un d'autre. Ce sont ces comparaisons-là, c'est lié à l'individualisme. Tu veux sauver ta peau, tu veux montrer que toi aussi tu existes, tu es quelqu'un. Non, c'est ça qui crée la division. Et bien aimé, autre chose, c'est considérer la réussite de l'autre comme étant notre réussite. Ça aussi c'est important. Comme étant notre réussite. Les gens du monde nous donnent l'exemple. Quand l'un marque un but au football, tout le monde vient l'embrasser. Peut-être qu'ils s'étaient disputés pendant les entraînements. Mais là, c'est la cause de l'équipe. Mais c'est des païens. Donc, si Dieu utilise l'un d'entre nous puissamment, il est en train de nous utiliser tous parce qu'on est dans la même équipe. Entrons dans ces choses-là, ça va nous permettre de rester vraiment unis, de faire fuir la division. Nous devons considérer, bien-aimés, comme on a fait ces sujets de prière, que le travail qui est efficace, c'est le travail qui est fait ensemble. Qui est fait ensemble? Le travail solitaire n'est pas efficace. C'est le travail d'ensemble qui est efficace. Et ça, il y a un peuple qui a compris ça, c'est les Américains. Les Américains ont compris que le travail d'ensemble, c'est ça qui est efficace. Quand vous prenez un album, je vous donne un petit exemple puisque je suis musicien. Si vous écoutez un album de musique des Américains, vous allez voir tous les sons sont équilibrés. Prenez un album français, vous allez voir la guitare trop forte. Peut-être l'arrangeur, c'est un guitariste. Donc il a privilégié sa guitare. Peut-être que c'est des choses que vous ne voyez pas, mais faites un effort. Vous allez vous constater que ce qui est fait par les Américains, tout est important. Tous les postes sont importants. C'est pour ça que vous allez voir dans les films américains, le vilain est aussi important que le beau. Mais tous les postes sont importants et ça tire quelque chose de fort, de puissant. Alors que dans d'autres endroits, c'est celui qui a le plus de qualité, c'est celui qu'on va mettre l'accent dessus. Vous allez dans un restaurant américain, que vous soyez un riche, que vous soyez un pauvre, le patron du restaurant va vous saluer comme si c'était vous le président. Mais allez dans un restaurant français, le patron va s'intéresser qu'à la personne riche qui est venue. Parce que le patron américain comprend que c'est toutes les petites sommes des pauvres qui viennent au restaurant qui fait de lui un riche. Donc, tout pauvre est important pour l'Américain. C'est important de comprendre, bien aimé, que chacun de frères et sœurs ici, malgré sa faible contribution, c'est ça qui fait que nous soyons là. C'est ça, parce que son Dieu agit pour lui. Moi, souvent, je dis aux bien-aimés, je dis, Dieu, quand j'observe l'amour, la détermination, la simplicité, la persévérance de certains parmi nous, je dis toujours, vous pouvez toujours essayer de tuer cette église, vous allez échouer. Si vous pensez que ça, c'est en me tuant moi, que cette église va finir, vous vous trompez. Il y a des gens ici qui aiment vraiment le Seigneur, qui persévèrent dans le ménage, dans toutes sortes de boulots. Quand je les observe, je dis, grâce à eux, cette église va être maintenue. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Chacun qui est sérieux attire l'amour de Dieu, la protection de Dieu. Alors, comment vous voulez m'empêcher? Qui va m'empêcher d'aimer les frères et les sœurs? Oh, bien-aimé. Qui est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble? Vraiment que Dieu nous aide à construire ensemble. Là, le sujet aujourd'hui, c'était rejeter la division sous toutes ses formes. Nous devons rejeter la division à tout prix. Ça ne veut pas dire accepter le compromis, mais rejeter la division, même si on se dit la vérité, que ce soit pour construire, considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, considérer que c'est à cause des autres que Dieu est en train d'agir dans ma vie, parce que moi-même, je suis imparfait. Si c'était à cause de moi, Dieu n'agirait pas. Donc, c'est à cause certainement des autres. Et ainsi de suite, bien-aimés. Nous expérimenterons les actes des apôtres. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te demandons pardon pour toute forme de comportement qui porte à la division au milieu de nous. Nous voulons considérer les autres frères et sœurs comme supérieurs à nous-mêmes. Nous voulons considérer les autres frères et sœurs comme étant les canaux grâce à qui nous sommes ce que nous sommes, Seigneur. Parce que tu agis à partir de l'intercession des uns et des autres. Nous voulons considérer dans les familles où il y a des chrétiens, considérer chaque chrétien de cette famille-là, que chacun considère chaque chrétien de sa famille comme un élément important à travers lequel Dieu agit pour l'ensemble de la famille. Seigneur, aide-nous à arrêter avec l'individualisme, à arrêter avec le fait de voir que les bobos chez les autres, Seigneur. Aide-nous à arrêter avec le fait de croire que c'est par nous seuls que Dieu parle, Seigneur. Nous voulons considérer ton travail que tu fais avec nous tous, Seigneur, et l'apprécier à 100%. Merci, Seigneur, d'agir au nom de Jésus. Pour détruire toute semence de division au milieu de nous, au milieu des véritables enfants de Dieu, dans le monde entier, Seigneur, les enfants de Dieu, même qui ne se rencontrent pas, qui soient unis en esprit, comme Éphésiens 4, 3 le dit, Seigneur. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, le grand miracle, ce n'est pas seulement les aveugles qui voient. Le grand miracle, c'est maintenir unis des gens d'origine différente, des gens de parcours différents, nous maintenir unis. Je me souviens même, tu t'en es vanté, que tu n'as perdu aucun de ceux qui t'avaient été confiés. Tu les as maintenus unis. Nous avons vu Paul uni aux autres apôtres, malgré son parcours. Nous avons vu les apôtres unis les uns aux autres. Merci Seigneur de nous aider à travailler ainsi, et afin que tout te rende gloire et non pas rendre gloire à quelqu'un. Béni soit ton nom, Seigneur, préserve-nous de tout esprit de comparaison. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.